Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans Carnet de région, votre magazine de l'actualité régionale. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro proposé, comme toujours, par les radios associatives de la région Languedoc-Roussillon et aux commandes de la rédac-chef, la radio FM+. C'est parti pour le sommaire. Tout d'abord, nous irons faire un petit tour à la préfecture de Carcassonne où une réunion a eu lieu mercredi dernier pour pallier au problème des habitats indignes. Une robe couleur or, une attaque en bouche fraîche, nous parlerons vin blanc bien sûr, vous l'avez deviné dans ce carnet de région, à travers le Picpoul de Pinet qui a obtenu la semaine dernière son appellation d'origine contrôlée. Puis nous irons faire un petit tour dans la campagne lozérienne pour rencontrer Catherine Zambon, écrivaine de théâtre qui a passé un an aux côtés des paysans lozériens pour écrire une pièce à leur image. Passons ensuite à la nuit de l'orientation qui a eu lieu vendredi dernier à Carcassonne où les jeunes étudiants pouvaient voir les 160 différentes offres de formation proposées. Ensuite à l'Odève, plus d'écoles sont ouvertes que fermées, c'est une bonne nouvelle. Mais, et oui car il y a un mais, des emplois RAZ sont supprimés et vous en apprendrez un peu plus dans le reportage qui suit. Anne-Marie Escoffier, la ministre déléguée à la décentralisation, était en Lozère vendredi dernier pour parler de la réforme de l'action publique qui inquiète les élus lozériens. La question de l'habitat indigne dans l'Aude. Le pôle départemental s'est réuni ce mercredi en préfecture à Carcassonne. C'est la troisième réunion qui a lieu depuis 2010 et le travail ne manque pas. Il y a davantage d'habitats indignes dans l'Aude que dans l'Hérault par exemple. Le reportage d'Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
19 000, c'est le nombre potentiel de logements indignes dans l'Aude, soit 14,3% du parc total et 40 000 personnes concernées. Un habitat est indigne quand il représente un réel danger pour ses occupants. Un logement mal chauffé ou mal isolé, par exemple, n'est pas qualifié d'indigne mais d'indécent. L'an dernier, 500 signalements ont été effectués. Le pôle départemental s'est réuni hier. Olivier Delquerou, secrétaire général de la préfecture.
Et on voudrait se donner comme objectif 700 signalements par an. Pour y arriver, il faut que nous élargissions les sources de signalements. Aujourd'hui, les signalements ils sont opérés essentiellement par les locataires, les occupants de ces logements, parfois par les collectivités, beaucoup par les services de l'État qui visitent ces logements à diverses occasions. Il faut qu'on élargisse encore le panel des personnes qui peuvent signaler ces habitats indignes. Et on pense notamment aux agences immobilières qui doivent jouer le jeu, à tout le réseau d'aide à la personne, toutes les intervenants qui vont dans ces appartements, dans ces maisons, aider les personnes qui en ont besoin. Aussi, un lien de proximité plus ténu avec le parquet, qui est lui aussi parfois saisi pour des mises en protection de personnes fragiles. Ces personnes fragiles peuvent très vite occuper un habitat dangereux pour leur propre sécurité.
Et la crise actuelle est-elle un facteur d'aggravation en matière d'habitat indigne? Écoutons deux points de vue. Tout d'abord celui de Sylvie Balestin, directrice de l'urbanisme à la mairie de Castelnaudary.
Je ne saurais pas trop répondre. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça fait 20 ans que je vois des cas assez lourds avec, même tout à l'heure, on parlait de procédures judiciaires avec des peines de prison et des amendes assez lourdes.
Pour Jean Fabre, vice-président du Grand Narbonne, en charge de la politique de l'habitat, la conjoncture économique a des conséquences.
Ce qui nous frappe le plus, c'est le retour et l'amplification du chômage qui touche davantage de gens, qui cherchent à se loger quand même près du centre d'emploi, c'est-à-dire la ville-centre et qui prennent n'importe quel logement à n'importe quelle condition. Et ça, c'était assez désagréable.
De nouveaux outils pour lutter contre l'habitat indigne pourraient très bientôt voir le jour dans l'Aude. Un observatoire pour identifier les différentes situations et une agence départementale d'information sur le logement destinée aux locataires mais aussi aux communes. L'Aude fait partie des rares départements à ne pas encore en avoir.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croustillon.
L'appellation d'origine contrôlée pour Picpoul de Pinet a été obtenue la semaine dernière. Une obtention qui récompense 300 familles au nord du bassin de Thau dans l'Hérault. Le Picpoul produit par 4 caves coopératives et les 24 caves particulières le vinifiant dans les communes de Pinet, Pomérol, Castelnau-de-Guers, Montagnac, Mèze et Florensac. décroché à l'unanimité des membres de l'INAO, l'Institut National de l'Appellation d'Origine, après 20 longues années de tractation, Guy Bascou, vigneron à Pomerol et président de l'appellation Picpoul de Pinet, répond aux questions d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
D'abord, c'est une reconnaissance pour nous, une reconnaissance de nos pères. Vous savez, en Languedoc, on est plutôt complexé parce que souvenez-vous, bon, il y a quelques années quand même en arrière, enfin, on a plutôt collé au corps l'image de la bibine un peu, hein. Donc, comme quoi, quand on est dans la bibine, avec du travail, du sérieux et du professionnalisme, et puis des terroirs, parce qu'on a beaucoup de terroirs, on peut s'en sortir. La preuve. Donc ce que ça change, c'est d'abord ça, c'est la reconnaissance, c'est le regard des autres. Pour nous, c'est... Deuxièmement, c'est aussi de donner aux vignerons de l'appellation Picpoul de Pinet les moyens de défendre leur appellation au travers de la réglementation européenne des AOP, appellations d'origine protégée, c'est son nom indiqué bien, protégée. Et puis, ça n'est qu'une étape, c'est pas une finalité en soi. Hein, c'est pas un hocher qu'on va faire encadrer, c'est pas un Oscar qu'on va mettre sur une étagère. Hein. Nous, c'est une étape, et c'est une étape dans la construction de ce vin d'appellation qui aujourd'hui commence à être bien connu, en particulier sur le marché exportation.
Et pour le consommateur, l'amateur de Picpoul ?
Pour l'amateur de Picpoul, qui ne s'inquiète pas, les prix ne vont pas flamber. Picpoul de Pinet a une bonne relation qualité-prix, je pense. Ce qui est important, c'est que les vignerons en vivent correctement. Pour le consommateur, ce que ça va changer, c'est qu'on va continuer à progresser sur la qualité et qu'on va maîtriser de plus en plus notre produit, et donc ils ont encore plus la garantie que ce produit est un produit tracé, suivi et garanti.
Sur l'étiquette, peut-être il y aura des changements aussi ?
Sur l'étiquette, il y aura écrit AOC Picpoul de Pinet.
Précisez-nous ou reprécisez-nous les caractéristiques gustatives de ce vin, sachant qu'on le boit notamment avec les fruits de mer ?
On le boit notamment avec des fruits de mer, mais on le boit avec beaucoup de choses. Bon, le Picpoul de Pinet, c'est un vin blanc qui a une couleur plutôt tirant sur le vert, avec des reflets or. Il y a un nez qui a une belle intensité, plutôt dans la famille des agrumes ou des fleurs blanches. En bouche, c'est un vin, ça c'est assez exceptionnel, en climat méditerranéen, naturellement acide. Et donc, il confère à ce vin, moi, ce que j'appelle l'arête acide du Picpoul, qui lui permet de passer par-dessus les côtés salés ou iodés des coquillages. Oui, et puis bon, mais c'est un vin qui se boit avec plein de choses. C'est un vin aussi de conversation, c'est un vin de feria, c'est un vin de festival de Thau. Donc on est largement implanté sur notre terroir.
Au total, l'appellation Picpoul de Pinet s'étend sur 2400 hectares pour une production aujourd'hui de 70 000 hectolitres par an. 40% de cette production est exportée.
Carnet de région.
Hérault,
Aude,
Gard,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Cela fait maintenant un an que l'auteure Catherine Zambon est arrivée en Lozère pour travailler dans 4 exploitations agricoles afin d'écrire une pièce de théâtre tirée de son expérience. Le projet proposé par les scènes conventionnées de Lozère a permis à l'écrivain d'aller dans 4 régions bien distinctes de la Lozère et de découvrir le travail agricole durant chaque saison de l'année. Pendant cette année, l'auteur a également fait des lectures chez l'habitant et dans les cafés des territoires où elle a été reçue. La pièce de théâtre qui se basera sur son texte, Les Agricoles, sera présentée au cours de la saison 2013-2014. Alors revenons sur cette expérience particulière avec Catherine Zambon, au micro de Ludovic Terrol de 48FM.
Bah, c'était une expérience forte, magnifique, où j'ai rencontré des hommes et des femmes extrêmement fiers de faire leur travail, extrêmement engagés, extrêmement passionnés. Des gens très 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 chaleureux qui ont pris avec beaucoup de sérieux ma demande, à savoir ils m'ont emmené partout, puisque l'idée c'était d'être à la fois dans le travail, donc dans les étables, mais aussi dans la vie familiale, dans la vie sociale, dans la vie syndicale. Donc tous ces gens m'ont emmené partout avec une confiance, un respect. Donc évidemment c'est totalement bouleversant. J'ai l'impression que j'ai agrandi ma famille, quoi.
Vous attendiez à ce que vous avez vécu ou vous avez été surprise ?
J'étais très surprise par, d'une part, effectivement, la qualité de l'accueil, enfin, Voilà, ça c'est. Je ne sais pas si moi-même dans ma vie j'aurais accepté quelqu'un qui me suive jour et nuit dans ce que je faisais. Et j'étais très très bouleversée par ma propre relation aux animaux, c'est-à-dire la relation des hommes et des femmes éleveurs avec leurs bêtes. Là où je ne m'y attendais pas, c'est que je me suis découvert une vraie passion pour les animaux, notamment les animaux d'élevage. Je ne serais pas agricultrice, hein, parce que c'est très très difficile, mais j'étais très chopée par le vivant, donc. Hommes, femmes et animaux, ça m'a chopé de manière énorme, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu des faits marquants durant cette année?
Alors dans l'année, oui, il y a eu des choses très drôles. C'est ce que je raconte dans mon texte, qui prend d'ailleurs la forme d'un journal, parce que pour moi, je crois que c'était la meilleure façon d'emmener le public dans cette expérience et dans ce monde agricole, c'était d'être au même endroit que moi. Donc oui, il y a eu des choses très marquantes. D'abord, j'ai trait. Ce qui est quand même peu commun pour un écrivain. Donc j'ai trait des vaches, la trayeuse, bien sûr, électrique. J'étais amenée à aller dans des réunions agricoles où il y avait énormément d'éleveurs, donc on prenait pour une éleveuse. J'étais amenée à fouiller une vache. Ça, je le dis aussi dans mon texte, ce qui fait beaucoup, beaucoup rire mes amis agriculteurs et éleveurs. Voilà, donc où il y a eu beaucoup de faits marquants. Après, il y a la période de vie en Lozère avec les moins 20, le feu de bois le soir pour se chauffer. Donc je dirais, il y a eu énormément de choses marquantes, oui, bien sûr.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La nuit de l'orientation avait lieu vendredi dernier dans les chambres de commerce de France. Dans l'Aude, cette nuit avait lieu à Carcassonne avec 160 formations proposées aux jeunes et à leurs familles. Le reportage d'Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
C'est la première nuit de l'orientation qui était organisée à Carcassonne vendredi, portée par la Chambre de commerce après deux éditions à Narbonne. Et le bilan est très satisfaisant. Jean Kézergue, président de la Chambre.
Tout à fait, plus de 1300 visiteurs, donc vraiment une première réussie, donc en partenariat avec nos amis de la CCI de Narbonne.
Qu'est-ce qui a fait le succès? Il y a la demande sur Carcassonne, c'est la crise, c'est quoi?
Non, je crois que le succès, c'est d'abord un excellent concept de CCI France aujourd'hui de faire en sorte que les jeunes puissent aujourd'hui s'orienter sans stress, donc un concept bien abouti, bien rodé et surtout parfaitement mis en œuvre par l'équipe de la CCI de Carcassonne.
Tout le monde a répondu présent, on voit de nombreux ateliers, les jeunes ont vraiment le choix.
160 professionnels donc, ont pu répondre à tous ces jeunes, donc c'est vraiment un succès énorme et pour les entreprises qui ont pu présenter leur métier et surtout pour les jeunes et leurs parents qui ont pu trouver des pistes d'orientation les plus intéressantes pour eux.
Une animation originale, on vous voyait interviewer, on vous demandait de chanter le manège à chanter, j'ai entendu.
Tout à fait, donc là c'est un partenariat avec le Graf de Carcassonne avec lequel on envisage de grandes et belles choses dans notre futur centre de formation.
Qu'est-ce que ça vous fait dire cette nuit? Ça vous fait dire que vous avez envie de recommencer l'an prochain sur Carcassonne?
Ah, ça nous fait dire que l'année prochaine nous recommencerons avec la CCI de Narbonne sur Narbonne. Et que donc en 2015, nous reviendrons à Carcassonne donc pour la nuit de l'orientation 2015.
Parmi les secteurs représentés à cette nuit de l'orientation vendredi à Carcassonne, le secteur de l'automobile. Écoutons Pierre Vica, membre du Conseil national des professions automobiles dans la région.
Alors, en fait, on recevait beaucoup de parents et de leurs enfants qui cherchaient un peu leur voie dans différents métiers. C'est vrai que l'automobile est un média porteur parce qu'il y a beaucoup de technologies, d'évolutions entre nos véhicules hybrides, électriques et toute l'électronique embarquée. Donc les jeunes sont assez intéressés. Le problème, c'est de leur faire comprendre qu'il y a des cursus un peu particuliers, hein, qu'il faut suivre pour y arriver. Mais bon, on a reçu pas énormément de monde, mais des jeunes intéressés.
Un moment où Peugeot annonce un déficit, où on a une image de l'automobile qui décline, quel est l'avis un peu de ces jeunes? Ils sont quand même attirés ou ils ont peur?
Non, je pense pas qu'ils aient peur de l'automobile. Bon, Peugeot, c'est un peu paradoxal parce que les résultats économiques sont une chose, mais c'est sûrement un des constructeurs qui a aujourd'hui le plus d'innovation. Mais il faut que les modèles soient vendus derrière. Donc nous, on représente à la fois les services, donc on est tout l'aval des constructeurs, donc tout ce qui concerne la distribution des véhicules, véhicules neufs d'occasion, et leur entretien et la maintenance qui va derrière. Donc il y a beaucoup de métiers, hein, comme la carrosserie, la carrosserie peinture, donc tous les ateliers, tout ce qui tourne autour des métiers. Il y a une vingtaine de métiers qui peuvent intéresser les jeunes, effectivement.
Malgré la crise, c'est un secteur qui embauche encore, qui recrute?
C'est un peu dur en ce moment. Je pense qu'on est dans le dur. qu'on ne voudrait surtout pas, c'est ne pas continuer à embaucher des jeunes en apprentissage en particulier, parce que c'est quand même l'avenir de nos ateliers. Et je pense que les chefs d'entreprise ont bien conscience de ça. Il y a un mauvais moment à passer, mais il faut qu'on fasse vivre nos centres de formation. On a beaucoup investi tous là-dedans, parce que c'est des gros investissements en matériel, en technologie, dans les enseignants, etc. Il faut qu'on assure l'avenir de la profession.
Le candidat type pour vous, pour ce secteur de l'automobile, c'est un candidat qui doit avoir quelle qualité ?
Il faut quelqu'un qui ait beaucoup de logique. Si on est dans la maintenance automobile, c'est tout à base de détection de panne, etc. Donc il faut une configuration d'esprit un peu particulière. Je ne pense pas qu'il faut être matheux, il ne faut pas être non plus trop littéraire. Je pense qu'il faut être très adaptable. Et puis il y a des métiers qui demandent d'autres qualités. Hein, dans la carrosserie peinture, il faut de la méticulosité, il faut des gens qui aient un peu le sens artistique, il faut des gens qui vraiment soient soigneux. Et c'est vrai que c'est des métiers aujourd'hui, les clients exigent des résultats impeccables. Hein. Dans tous les commerces, donc c'est difficile.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Pour la première fois depuis 5 ans, il y aura plus d'ouvertures que de fermetures de classes dans le département de l'Hérault à la rentrée prochaine. Le Conseil départemental de l'éducation nationale, réuni jeudi matin à Montpellier, a confirmé l'information donnée par les syndicats en début de semaine. Oui, mais voilà. Malgré un solde positif, ça coince dans les endroits où sont annoncées des fermetures. C'est le cas dans la sous-préfecture de l'Odève, touchée par la suppression d'une classe de maternelle et de 2 postes d'enseignants de RASED qui intervenaient sur tout le territoire du Lodévois-Larzac. Après avoir voté une motion en conseil municipal, les élus étaient présents jeudi matin devant les 6 écoles publiques de la ville pour expliquer la situation aux parents. Une situation sur laquelle revient Bernadette Trani, l'adjointe aux affaires scolaires, au micro d'Alain Mendes de Radio Lodève.
Voilà, c'est vrai que mardi soir, nous avons voté une motion parce que nous avons des inquiétudes vis-à-vis de la carte scolaire avec des fermetures de classes, des suppressions de postes, en particulier des postes de RASED qui concernent les enfants les plus en difficulté. Ce matin, nous avons donc décidé de nous trouver sur le terrain à l'entrée des écoles pour rencontrer les parents d'élèves et leur distribuer la motion que nous avons votée à l'unanimité en conseil municipal mardi soir. Alors, il y a confirmation de la suppression d'une classe à l'école Fleury. Je pense que là, on ne va pas le contester parce que l'effectif n'y était pas. Mais il y a aussi la menace qui pèse sur une classe de l'école Pasteur et surtout menace de suppression en ce qui concerne les RASED, donc les enfants les plus en difficulté. Alors, pour le ou les postes de RASED, ce qui pourrait être en conséquence directe, c'est que les enseignants spécialisés qui travaillent au RASED n'interviendraient plus sur les communes hors l'Odève. Ces enseignants pouvaient intervenir au Bosc, à Saint-Maurice-de-Navacelles ou à Soubès. Déjà, ils n'interviennent que pour les classes de CP et de CE1, parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'autres créneaux. Mais effectivement, ils ne pourraient plus intervenir hors l'Odève.
Voilà, en sachant que l'Odève est classée en zone d'éducation prioritaire, en zone de revitalisation rurale aussi, c'est ce que vous défendez ?
Voilà, tout à fait. Les difficultés existent. La preuve en est qu'effectivement, il est proposé un dispositif innovant avec l'accueil des enfants de moins de 3 ans dans une classe qui serait donc dirigée par un enseignant avec un accueil beaucoup plus souple, un travail en partenariat avec la PMI, avec la crèche. Donc ça pointe des difficultés parce que dans les écoles du centre-ville, les enfants de 2 ans ne sont pas beaucoup scolarisés.
Les représentants Lodévois ont fait passer leur motion au ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, venu à Montpellier vendredi soir, parler de l'aménagement du temps scolaire aux élus locaux. Anne-Marie Escoffier, la ministre déléguée à la décentralisation, était en Lozère vendredi dernier. Elle est venue parler décentralisation, financement des collectivités locales, mais la ministre a également évoqué la réforme territoriale, une réforme qui sera celle de l'action publique, et qui inquiète les élus lozériens venus nombreux à la conférence de la ministre, qui a tenu à faire de la pédagogie et à rassurer les maires de la Lozère. Écoutez Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée à la décentralisation, au micro de Ludovic Thérol de 48FM.
J'espère que celle-ci sera la deuxième véritable réforme de la décentralisation, parce que c'est une réforme intelligente qui est là pour relier l'État et les collectivités territoriales et ne pas les distinguer, ne pas les mettre dans l'affrontement, mais toujours dans la complémentarité et un travail cohérent global. Je dois dire que je suis impatiente aussi de voir aboutir un dispositif qui créera sur les territoires une véritable harmonie et qui donnera à tous les territoires la même chance d'évoluer, d'accueillir des populations, d'accueillir de l'emploi, d'accueillir du travail, de dynamiser les territoires. Il n'y a pas de millefeuille, oui, je le dis. Le millefeuille, c'est un millefeuille virtuel. Il n'existe que parce que nous avons mal travaillé ensemble, que nous n'avons pas voulu reconnaître l'autorité des uns et des autres. Il n'y a que trois types de collectivités, je le redis. Il y a la région, il y a le département et il y a la commune. Un point, c'est tout.
Et voilà, Carnet de Région, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.